Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faites par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolée.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat.
Dans une putain de cellule au premier étage! Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tour! Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour.
Alors, ça c'est une fois passé la première instance, les deux avaient fait immédiatement appel, Romain et José, de leur condamnation. Mais José s'est désisté de son appel. Et moi, je vais le dire pourquoi, parce que je trouve ça vraiment complètement dingue. Et on a vu la différence en plus tout à fait notable entre les deux procès, entre Grenoble et Valence, c'est que l'avocate qui s'occupait d'eux, qu'une avocate de l'OIP, leur avait conseillé de ne pas faire appel, en leur disant, écoutez, finalement, vous vous en tirez bien, hein, puisqu'il y a 8 ans qui ont été demandés, vous n'en avez eu que 5, ils peuvent alourdir la peine, puisqu'évidemment, ils ont fait un appel incident, donc le procureur a fait appel incident. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils peuvent augmenter la peine, mais c'était un conseil complètement délirant. Ça veut dire maintenant, avec tout ce que vous avez fait, le mieux c'est de vous taire, c'est de rien dire, c'est d'arrêter votre bagarre. Alors que la bagarre n'était pas terminée. Il fallait qu'il fallait continuer à se battre, même à l'appel, et prendre ce risque-là. Sinon, à quoi ça aurait servi de prendre tous les risques qui avaient déjà été pris? Je dis ça parce que j'ai les boules contre ce qui s'est passé en première instance, parce que de la même façon que la défense avait pas été terrible, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, le fait même que le président ait pu faire interdire l'accès au public, c'est aussi évidemment, c'était son souhait, mais c'est aussi grâce à la mollesse
de l'avocat, la
défense. Ouais. Évidemment que cette même avocate aurait dû dire, en accord avec Romain et José Bécran, qui étaient d'accord. Nous, on refuse que le procès se tienne si vous laissez pas rentrer le public, puisque ils avaient laissé rentrer les matons. Et puis quelques représentants d'associations qui sont dignes de ce nom pour eux, comme l'OIP d'ailleurs, et d'autres. Mais tous les vanipiés, tout les machins...
Ils étaient entre bonnes gens, quoi.
En vrai, hein, tous ceux qui sont toujours là. Ben, eux, non, eux, ils ont pas le droit de rentrer. Non, je suis fâché, là. Je suis vraiment fâché. C'était parce que quand j'ai vu la facilité ensuite de comment ça s'est passé à Grenoble, vraiment, vraiment, ça veut dire qu'ils ont vraiment merdé leur coup à Valence, quoi.
Salut à toutes et à tous. Vous êtes bien dans la quotidienne de l'Envolée. Nous sommes le dimanche 3 mai, il est 17h40, en présence de Alex, Pierrot, Serge, Floréal, Nol, Gaël, K, Manu au bocal et Sylvia qui vous salue. Il n'était pas concevable de commencer cette émission sans parler de la reprise des parloirs le 11 mai. Alors une petite circulaire tourne un petit peu partout sur les réseaux sociaux où il est précisé que pour réserver son parloir donc du 11, il faudra téléphoner à partir du 7. J'espère que ce sera pour toutes les tôles pareil et qu'il n'y aura pas des prisons qui sont privilégiées comparées à d'autres tôles. Voilà, ce serait sympa, déjà dans un premier temps, parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de restrictions et ne pas trop en mettre, ce serait cool. Même si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Ils expliquaient dans cette circulaire qu'il n'y aura pas de dépôt de linge, donc les prisonniers resteront à laver leurs affaires et avec leurs affaires sales, bref, tout le monde a compris. Comme restriction aussi, ce sera le port du masque pour chaque visiteur. Et là où c'est un petit peu plus cruel, ce sera un visiteur par parloir. Alors, il faut savoir que ça pose déjà des conflits dans certaines familles où il y a des enfants qui sont amenés par leurs parents, donc des enfants mineurs, des bébés des fois, et où la famille ou le proche doit expliquer à l'enfant que maman ou papa va aller au parloir, mais qu'il ne pourra pas aller voir son proche. Donc ça commence déjà, on reçoit des appels de familles qui sont déjà très attristées et très peinées, et limite, ils disent ne pas vouloir y aller, parce que cette impression de punir son enfant, de ne pas aller voir son proche. Et c'est très grave et très cruel. Voilà, c'est très dur. Et c'est encore à nous, famille, de faire ce travail psychologique, à expliquer le pourquoi du comment l'enfant ne peut pas aller voir le papa ou la maman en détention. C'est quand même un monde d'être le mépris de l'État comme ça. Bref. Et donc, il n'est pas spécifié que les enfants ne sont pas autorisés à aller au parloir. Mais dès l'instant qu'il n'y a qu'un proche, forcément, ça ne va pas être possible. Et c'est là où ça va poser des gros problèmes. Voilà. Ensuite, un autre souci, alors c'est pas de notre côté cette fois-ci, c'est du côté de ces messieurs les surveillants qui ne sont pas contents. Parce qu'il y a des prisonniers qui leur ont dit, de toute façon, à la reprise des parloirs, vous n'allez pas m'empêcher d'aller embrasser ma femme que j'ai pas vue depuis 2 mois. Ça va pas être possible. Et là, ils disent, alors les surveillants s'acclament, oui, les familles vont nous ramener les maladies à l'intérieur, c'est inadmissible, ils vont contaminer les prisonniers. Mais dites donc, c'est pas un petit peu pousser mémé dans les orties, vous rentrez pas chez vous le soir, vous faites bande à part, vous dormez séparés de votre femme, vous embrassez pas vos enfants et vous les aidez pas à faire leurs devoirs. C'est quand même aberrant de voir la mauvaise foi de ces gens-là, là. Et le mépris, encore une fois, de ces prisonniers qui demandent qu'une chose, c'est d'aller embrasser leur femme. Eh oui, on a un petit peu d'amour, même enfermé dans 9 mètres carrés. On a le droit à recevoir cette tendresse, malheureusement pour vous. Voilà. Et les familles ne sont pas abruties. Si, par exemple, moi, je suis malade et que je dois aller voir mon mari, je ne vais pas prendre le risque d'aller le contaminer en prison tout en sachant qu'il ne va pas être soigné. Que vous prenez le risque d'aller contaminer ces prisonniers pour gagner 1200 euros par mois, d'accord? Allez, on va s'arrêter là avant que je devienne un peu plus méchante. Faut savoir que l'Envolée a refait un communiqué de presse pour Jean-Christophe Merlet. Et avant de le lire, pour vous prouver que ça arrive, des coups faits et organisés par les surveillants pénitentiaires, il y a 5 surveillants à Val-de-Reuil qui ont été condamnés pour coups et blessures et faux compte rendu d'incident. Alors un compte rendu d'incident, c'est ils ont simulé qu'un prisonnier avait fait des délits et donc ont fait des faux rapports et ce prisonnier a été puni gratuitement, mis à l'isolement, au mitard, tabassé et donc il a eu gain de cause voilà, il a laissé surveillants ont été condamnés pour ces faits qui leur sont reprochés et c'est enfin une bonne nouvelle. voilà, il faut savoir que ça arrive et c'est ce qui arrive à ce monsieur Merlet. Voilà, donc je vais vous laisser lire le communiqué.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour celles et ceux qui auraient écouté les flashs ou les émissions de la semaine dernière, vous savez que depuis une dizaine de jours, nous essayons de contribuer à mettre en lumière le sort qui est fait à Jean-Christophe Merlet, prisonnier au centre de détention de Nantes, alors qu'il est handicapé dans un fauteuil et qu'il demande depuis des années à sortir de prison en bénéficiant au moins d'une mesure de suspension de peine pour raison médicale. Nous avons publié d'ores et déjà deux communiqués qui insistaient sur la nécessité médicale que Jean-Christophe puisse sortir au plus vite. Voici une troisième étape dans la communication de cette histoire. Je vous lis un communiqué donc de l'Envolée de ce dimanche 3 mai 2020. L'administration pénitentiaire et la justice auraient-elles intérêt à ce que M. Merlet meure en cellule ? L'administration pénitentiaire n'aime pas la lumière. Le corporatisme y fonctionne à plein régime pour cacher ce que l'on nommerait poliment des bavures si elles n'étaient pas structurelles. Nous nous permettons de penser que les diverses plaintes que M. Merlet, actuellement détenu au CD de Nantes, a déposées contre des membres de l'AP pour des faits de violence sont la cause de son maintien en détention et d'un certain acharnement de cette administration et de celle de la justice à son encontre. L'Envolée est en effet saisie par la famille et des amis de M. Jean-Christophe Merlet, non seulement pour dénoncer la situation sanitaire dans laquelle il est maintenu, mais aussi pour rendre publics les agissements de membres de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice. Alors qu'il est handicapé et souffre de diverses pathologies sévères, respiratoires et neurologiques, alors qu'il est coincé dans un fauteuil roulant, qu'il a de plus en plus de mal à actionner, alors que son état a été jugé incompatible avec un maintien en détention depuis 2017, rapport médical à l'appui, alors qu'il est conditionnable depuis 2016, Jean-Christophe Merlet est actuellement incarcéré au CD de Nantes dans des conditions inadmissibles. Nous avons fait écho dans nos communiqués précédents. Une première requête en suspension de peine pour raison médicale, déposée en mai 2017, a été refusée en juillet 2019, 2 ans plus tard. Depuis plusieurs mois déjà, une nouvelle requête en suspension de peine a été déposée sur le bureau de la juge d'application des peines, Madame Briand. La semaine dernière, l'avocate de M. Merlet a eu la bonne surprise d'apprendre qu'un nouveau passage en commission d'application des peines était prévu pour ce mercredi 6 mai. Nous nous réjouissons de cette soudaine accélération. Malheureusement, notre joie s'arrête là. En effet, Madame Briand, profitant d'une procédure permise par la loi d'urgence sur la sécurité sanitaire promulguée pour faire face à la crise du Covid-19 fin mars, a prévu que la commission se tienne hors débat contradictoire, c'est-à-dire sans la présence de M. Merlet. Notons au passage, d'une part, que très nombreux avocats ont déjà déposé des recours pour contester ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de l'accusé et à ceux de la défense, et d'autre part, que toutes les juges d'application des peines de France ne procèdent pas de la sorte. Il s'agit donc là, dans ce cas, d'un choix délibéré de Mme Briand de ne pas avoir à entendre, de la bouche de M. Merlet, la description de son quotidien en détention, que l'on peut résumer de la sorte « fauteuil, lit, lavabo, fauteuil, lit ». 24 heures sur 24 en cellule. Rappelons encore une fois que M. Merlet ne dispose ni d'une cellule adaptée à son handicap, donc pas de douche possible, ni d'un suivi médical par l'UXA, l'unité de consultation et de soins ambulatoires, en rapport avec son état. Il ne bénéficie non plus d'aucune aide pour se déplacer, alors que ses membres sont gagnés par la paralysie. Mais surtout, en procédant de la sorte, une commission sans M. Merlet, Mme Lajappe et M. le procureur de la République n'auront pas à entendre ce que Jean-Christophe Merlet ne cesse de répéter depuis 4 ans, et qui a donné lieu aux diverses plaintes qu'il a déposées. Plainte qui, comme souvent dans ce genre d'affaires, semble rester lettre morte. Puisque personne au sein des institutions judiciaires et pénitentiaires ne veut entendre ce que M. Merlet dénonce, nous devons de le rendre largement public aujourd'hui. Le 26 août 2016, à la centrale de Saint-Martin-de-Ré, M. Merlet se fait tabasser par une équipe de surveillants particulièrement violents et clairement identifiés au sein de la pénitentiaire et au-delà de la pénitentiaire. CF à ce sujet le documentaire « À l'ombre de la République » de Stéphane Mercurio. Ce passage à tabac est en grande partie responsable de l'état de santé dans lequel se trouve Jean-Christophe Merlet aujourd'hui. Mais ce passage à tabac est aussi survenu quelques semaines après que M. Sambali Diabaté, un autre prisonnier de la centrale de Saint-Martin-de-Ré, a trouvé la mort entre les mains de certains surveillants. Ce 9 août 2016, M. Merlet avait assisté au début des violences qui ont abouti à la mort de M. Diabaté. La famille de M. Diabaté s'est portée partie civile et la plainte est toujours en cours. Une reconstitution de l'affaire a eu lieu en janvier 2020, alors même que tous les témoins n'ont pas encore été entendus. C'est notamment le cas de M. Merlet, qui aimerait être entendu sur ces faits pour aider à établir la vérité sur la mort de M. Diabaté. Le 18 mai 2017, soit un an après, quasiment, M. Merlet porte plainte à son tour pour violence en réunion commise par du personnel pénitentiaire contre trois surveillants pour ce tabassage qu'il a subi fin août 2016. 2 ans plus tard, le 6 août 2019, voyant que sa plainte n'avance toujours pas, il porte plainte pour des faits donc de menaces et de dissimulation d'actes graves. Les actes graves sont les violences qu'il a subies et la mort de M. Diabaté. Et cette fois, il porte plainte contre une juge d'application des peines de La Rochelle, Mme Gratacos, contre la vice-procureure de La Rochelle, Mme Arras, et contre Mme Mano Benazeraf, directrice alors de la centrale de Saint-Martin-de-Ré au moment des faits. Dans le cadre de l'instruction de ces plaintes, nous savons qu'au moins une personne n'a pas été entendue. Un agent de l'administration pénitentiaire, en poste à Saint-Martin-de-Ré à l'époque, démissionnaire depuis, que M. Merlet cite comme témoin des agissements de la direction à son égard. Entre-temps, disons qu'au sein même de l'administration pénitentiaire, la mort de M. Diabaté a eu de notables effets dont le quotidien Sud-Ouest a fait état dans de nombreux articles. Je cite « Un rapport de l'inspection des services pénitentiaires rendu à l'automne 2016, ainsi que différents témoignages pointent divers dysfonctionnements et mettent en cause 10 ou 12 personnes, y compris des membres de l'encadrement, alors en poste à la centrale de Saint-Martin-de-Ré. Un mois plus tard, le 1er décembre 2016, un surveillant se donne la mort alors qu'il a été convoqué en vue d'une possible mise en examen. Un autre surveillant, dont la participation aux événements du 9 août 2016 est attestée, s'est également donné la mort en avril 2017. En décembre 2017, un troisième surveillant, également impliqué dans les événements du 9 août, citation de l'article, fait une tentative de suicide à la centrale de Saint-Martin-de-Ré. Rappelons ici à toutes fins utiles que la directrice qui était en poste à Saint-Martin-de-Ré en 2016, et contre laquelle M. Merlet a donc porté plainte, n'est autre que l'actuelle directrice du CD de Nantes, Mme Mano Benazeraf. Par un mauvais concours de circonstances, elle a pris la direction de cette prison quelques mois à peine après que Jean-Christophe Merlet y ait été transféré, début 2018. Avouez que ce n'est pas de chance pour Jean-Christophe. Il est effectivement compliqué de porter plainte contre la justice et ses prisons. Nous savons que la plupart de ces affaires sont étouffées. Les plaintes contre des surveillants n'aboutissent que rarement. On peut noter ici la notable exception du 10 avril 2020 avec la condamnation de 5 surveillants du CD de Val-de-Reuil. Alors, quand ces plaintes impliquent des directeurs, des juges d'application des peines, des procureurs de la République, on y croit encore moins au fait qu'elles aboutissent. À l'issue de la commission de mercredi prochain, du 6 mai, nous pouvons nous attendre à ce que M. Merlet soit non pas libéré, mais plutôt transféré, ou baluchonné, comme on dit, dans une autre prison, pour tenter de l'isoler un peu plus et d'étouffer une nouvelle fois sa voix dérangeante, en attendant qu'il ait l'aimabilité de crever au fond d'une cellule. Soyons clairs, qu'on décrédibilise sa parole, qu'on brandisse sa prétendue dangerosité depuis son fauteuil, ou qu'on prétexte un quelconque manque au dossier, tout cela ne pourra désormais être compris que comme une ultime tentative pour faire taire M. Merlet et le faire mourir entre les murs. Non pas pour la protection de la société, mais pour la protection d'une caste et des amitiés au sein d'une corporation. De cette responsabilité, de fait, procureurs et juges d'application des peines auront à répondre. L'envolée.
Et bien voilà, cette quotidienne touche à sa fin. On voudrait saluer tous les prisonniers et prisonnières de France en espérant que le confinement ne soit pas repoussé et que ces parloirs arrivent enfin le 11 mai. Force, courage et détermination. Et bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement. Salut !